Europe 1. Europe 1,
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous secouer, c'est sûr. Car c'est l'histoire de la maman d'un enfant très lourdement handicapé qui, lorsqu'il a 3 ans, décide de mettre fin à ses jours. Et cette maman, c'est vous, Anne Ratier. Bonjour.
Bonjour.
Vous racontez votre douloureux parcours dans un livre qui paraît chez City, « J'ai offert la mort à mon fils ». C'est une histoire qui peut choquer, qui peut heurter des convictions, j'en suis parfaitement conscient, et vous aussi. Mais je pense que pour se forger une opinion, il faut écouter votre histoire d'un bout à l'autre. C'est ce que je vous propose de faire maintenant. J'ai écrit votre histoire sans vous juger, en essayant d'être le plus fidèle possible à vos mots, et on en parle après. J'ai écrit cette histoire avec Simon Veil, réalisation Céline Lebras.
14h, 15h,
on de la traconte sur Europe 1.
Mon histoire commence bien. Un jour de grand soleil, le jour de la Toussaint 1984. Je suis enceinte de mon premier enfant, je ressens les premières contractions dans l'après-midi, et nous partons donc pour la clinique. Nous y arrivons joyeux, impatients. Le médecin qui me suit me fait passer une échographie. Bonbon, ça se présente bien. Je vais vous laisser dans les mains de la sage-femme de garde, et à plus tard. Et oui, on est un jour férié. Et les heures passent, interminables. Et ma douleur augmente. Et assez vite, elle laisse place à de l'angoisse. Mes contractions me déchirent le dos. Mais le bébé ne descend pas. Mon mari perd patience, il demande de l'aide, la sage-femme vient. Mais non, enfin c'est rien. Ne vous inquiétez pas, madame. Je me dis que je suis trop douillette, et donc je supporte. Pour me donner du courage, je pense à mon bébé qui sera bientôt contre moi. À un moment, je suis au bord de l'évanouissement. Heures, 22h, 23h, le temps passe et rien ne se passe. Parfois le téléphone sonne, c'est le médecin, il demande si tout va bien.
Oui, oui, docteur. Oui, tout va bien. Pas de souci.
Elle a peur de le déranger, de gâcher sa Toussaint en famille. Je lui dis, pourquoi est-ce que vous mentez? Vous voyez bien que ça va pas. Non, elle ne voit pas, elle n'entend pas. Elle secoue les épaules, elle me jette un coup d'œil sévère. Pour la première fois de ma vie, j'ai envie de frapper. J'ai envie de lui faire mal. Minuit, 2h, 3h, mon état empire. Mes mains déchirent les draps, et elle? C'est normal, c'est votre premier enfant, vous verrez. Plus tard, vous n'y penserez plus. 4h. 5h, 6h, 7h, ça dure comme ça jusqu'au petit matin. Et vers 8h, le médecin arrive pour constater que le cœur du bébé ne bat plus. Je l'entends dire
« Mais enfin, il fallait me prévenir !»
Et là, une panique s'empare de l'équipe. Il faut faire une césarienne, en urgence. Je n'ai plus de corps. Je l'ai senti, moi, la souffrance de mon bébé. J'ai senti l'instant précis où il a cessé de se battre pour la vie. J'entends des bribes de phrases.
Ses ongles sont bleus. Elle avale le tuyau à oxygène.
De l'autre côté de la vitre, le médecin va voir mon mari. Bon, vous avez un petit garçon qui présente un problème respiratoire. Assez courant chez les enfants qui naissent par césarienne, hein, c'est sans gravité. Vous êtes d'accord pour qu'on le fasse transporter à l'hôpital ? Hein ? Il nécessite des soins. Mon mari lui fait confiance. Il accepte. Il signe le papier. Et à ce moment-là, il le voit. Notre bébé, il le voit. Un petit visage encadré d'une impressionnante touffe de cheveux noirs. Le reste de son corps enveloppé dans une sorte de couverture en aluminium. Plus tard, il me dira que ça lui a fait un choc. C'était pas un regard de bébé, tu vois. C'était comme le regard de quelqu'un qui a déjà vécu. C'était un regard d'adulte. Moi, je suis toujours inconsciente. Je ne sais pas que Frédéric, c'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler, que Frédéric a eu des convulsions, qu'il n'y avait pas de matériel sur place. Et que c'est pour ça qu'ils l'ont envoyé en soins intensifs à l'hôpital, et pas dans un grand hôpital, dans un hôpital interdépartemental. Je ne sais pas dans quel état mon enfant, mon premier enfant, va sortir de cet hôpital. Quand je reprends connaissance, pour m'éviter tout contact avec les autres mamans, celles qui ont leur petit ange dans les bras, on m'installe en chirurgie. Et mon mari m'explique. Chérie, ils m'ont dit que c'était sans gravité, que c'était courant après une césarienne. Mais moi, j'y crois pas. Il est mort. Et on attend que j'aille mieux pour me le dire, mais il est mort. Et s'il est vivant, je veux le voir. Je veux le tenir dans mes bras. Alors quand je me retrouve toute seule, je me hisse péniblement au bord du lit. Je prends une inspiration, je me mets debout, j'ai mal, j'ai chaud, j'ai froid, je vais vers la salle de bain, le sol tangue, et je m'effondre. Madame Ratier, enfin ! Vous n'êtes pas sérieuse ? Vous devez rester dans votre lit. Je veux le voir ! Je veux sortir, et donc, je recommence. Je me relève, je me cramponne au dossier d'une chaise. Quand ça tourne, je m'assois dessus. Je respire et je recommence. Je m'entraîne et dès que je me sens prête, je range mes affaires et j'exige qu'on me laisse sortir pour aller voir mon bébé. Mais le médecin refuse.
Ça n'est pas sérieux. Après une césarienne, il vous faut du repos.
Je ne suis pas votre prisonnière. Et vos inquiétudes arrivent un peu tard ? Non. C'était avant qu'il fallait s'inquiéter. Vous pensez pas ? Est-ce qu'il peut me rassurer sur l'avenir de mon fils ? Est-ce qu'il a subi des dommages irréversibles ? Parce que moi, c'est ça que je redoute. Lui, il a fait signer à mon mari une autorisation de soins. Son existence de médecin respecté se poursuivra sans encombre. Mais nous, qu'est-ce qui va nous arriver à nous ? Et puis je quitte la clinique avec mon mari. Il va s'en sortir.
T'inquiète pas. Ce sera peut-être un peu long, mais il y arrivera.
Je n'en crois pas un mot. On prend la direction de l'hôpital et nous voilà au service des soins intensifs pour nourrissons. On commence par nous mettre dans un sas de désinfection. On enfile une blouse, un bonnet, des surchaussures. Et on pénètre dans le sein des seins. Et je le vois, dans une couveuse, mon fils, relié par des tuyaux à des appareils énormes, effrayants. Et il me regarde. Je l'ai abandonné. Je l'ai laissé tout seul.
Madame ? Il faut y aller maintenant. Vous reviendrez demain.
Comme si demain allait tout changer. Et on revient le lendemain, et les jours d'après. Et Frédéric vit toujours grâce à ces monstrueuses machines, sans personne pour lui donner un biberon. On lui a placé une sonde directement dans l'estomac, et lui, il se débat, il arrache sa sonde. L'infirmière la lui remet. Mais enfin, arrêtez ça! Alors un jour, je prends l'initiative de lui donner moi-même les biberons. Et tous les jours, il boit un peu plus. Un peu mieux. Un mois plus tard.
Bien. Vous allez pouvoir rentrer chez vous avec Frédéric. Mais il va falloir nous le ramener régulièrement, hein, pour des visites de contrôle. Professeur, est-ce que vous pouvez nous dire ce que sera l'avenir de notre fils ?
Oh, c'est beaucoup trop tôt, là. Hein. Son électroencéphalogramme est perturbé. On l'a placé sous garde énale. Il aura probablement un retard dans les acquisitions motrices, mais il récupérera, vous verrez. On est sur le point de partir. Et là, dans le couloir, on croise un infirmier qui pousse un appareil avec un tout petit bout de chou à l'intérieur.
Oui, c'est un petit garçon qui est né prématurément à 7 mois de grossesse. Il vient tout juste d'être opéré d'une tumeur au cerveau.
Je reste tétanisé. Est-ce qu'ils ont pensé à la vie qui attend ce gamin? À l'enfer que vont vivre ses parents? Eux aussi, ils ont signé une autorisation d'opérer? Ou alors ils ont donné leur accord pour des raisons religieuses? Je veux pas savoir. Je fais l'autruche. Je vais pas gâcher ce jour merveilleux où Frédéric est enfin avec nous. Notre retour à la maison ressemble à celui de tous les parents du monde. Il tète, il dort. Sauf que Frédéric peine à prendre ses biberons. Je dois m'y reprendre à plusieurs fois, mais c'est une vie presque normale. J'ai dit presque. Parce que quand on se promène, les gens me disent « Oh, il est beau votre bébé !» Mais moi, je ne me suis pas remise de cette naissance. C'est pas le baby blues, hein, non? C'est quelque chose de diffus, de lourd, de tenace, comme une intuition du chaos à venir. De temps en temps, quand Frédéric dort dans sa chambre, je m'installe dans le salon et j'essaye de prendre du recul. C'est ma punition. Je me suis marié trop tôt. Ils avaient raison, ceux qui disaient « Tu vas pas te marier à 23 ans. Tu viens à peine de sortir de tes livres, de tes études. Cet homme n'est pas fait pour toi. 14 ans de plus que toi. » Et puis, je me reprends. Absurdité sort de ce corps, ou plutôt de cet esprit. Et je me mets à acheter des tonnes de livres sur l'évolution d'un nourrisson et sur les étapes de l'acquisition. Les causes de certains retards, ce qui peut être récupéré, ce qui ne se récupérera jamais. Et après je regarde mon fils, les réflexes qu'il a, ce qu'il devrait ne plus avoir, et là, ma gorge se noue. J'en parle quand on va à l'hôpital.
Il y a eu un laps de temps pendant lequel il a manqué d'oxygène, ok? J'ai lu que ça pouvait causer des dégâts irréversibles. Vrai ou faux?
Ne lisez pas les livres, madame. Ils ne vont vous apporter aucune aide.
Oui, mais moi, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir.
Et maintenant, il a 1 an. Et il ne tient toujours pas sa tête. Et il se mord la lèvre si fort que parfois elle saigne. Et quand je veux lui donner à manger, quand j'avance la cuillère de purée, il comprend pas. Il n'ouvre pas la bouche. Alors je le mets sur mes genoux, j'essaye d'introduire la nourriture entre ses dents serrées. Il s'étouffe. Et moi je panique. Je suis tenté de renoncer à le faire manger, mais je ne veux pas qu'il retourne à l'hôpital. Ah ça non. Et le pire, c'est de ne pas savoir. Le pire, c'est que l'équipe médicale ne répond pas à nos questions. Alors nous prenons rendez-vous dans un hôpital spécialisé dans le handicap. Une dame nous reçoit. Elle examine Frédéric.
Madame, monsieur, je suis désolé d'avoir à vous l'apprendre, mais outre le fait que votre fils a un lourd handicap moteur qui est dû à de graves lésions cérébrales, il est sourd et il est aveugle. Sa place est à l'hôpital. Il n'a pas d'avenir ailleurs. Et si je peux m'autoriser un conseil, pour votre santé, hein, pour votre équilibre, faites un autre enfant.
On sort et on s'assoit. On est incapable d'aller plus loin. Et c'est mon mari qui parle le premier.
Mais tout ça est faux. Enfin, cette femme se trompe. Tu le vois bien tourner la tête quand tu entres dans sa chambre. Et puis le moindre bruit lui fait peur.
Alors en rentrant, on fait des tests. On met Frédéric sur les genoux de mon mari. J'allume une lampe. Je me déplace. J'éteins la lampe, je l'appelle.
Frédéric ?
Il tourne son beau visage vers moi. Alors nous prenons rendez-vous dans un service de neurologie à Paris. Il faut que je vous raconte ça. Le professeur est dans son bureau, au milieu d'une cour d'internes obséquieux, et il leur parle à eux, pas à nous.
Vous voyez, hein, il ne devrait plus avoir ce réflexe depuis l'âge de 6 mois. On a là un signe pathologique indéniable.
Et là, enfin, il se tourne vers nous.
Votre fils a un problème. Tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est qu'il ne dansera jamais le rock'n'roll avec ses copines. Il faudrait, avec votre accord, envisager de le prendre à l'hôpital. Vous pourrez venir le voir, autant que vous le souhaitez.
Il n'en est pas question. On ne le laissera jamais.
Alors gardez-le. Mais quand il sera plus grand, plus lourd, plus fort, quand vous serez incapable de le nourrir, de l'habiller, vous viendrez me demander de le prendre, hein.
Le week-end qui suit, mon père, mon papa, me parle comme il ne m'a jamais parlé.
Tu sais, ma chérie, je donnerai ma propre vie pour rendre à cet enfant ce qui a été détruit. Je crains pas la mort, tu sais. Ma vie est faite. Alors quand vous aurez la certitude qu'il n'y a plus d'espoir, amenez-le ici. Et on partira tous les deux. Il y a pire que de mourir, tu sais. À partir de maintenant, considère que je suis prêt. Je n'attends que ton signal.
Je suis bouleversé. Je ne lui ai fait aucune promesse, hein, car une partie de moi est en accord avec lui, mais une autre s'insurge. Mais c'est vrai, dans certaines circonstances, la mort peut être plus douce que la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible que de ne pas avoir conscience de ce qu'on est? De ne pas avoir conscience de vivre? D'ignorer qu'on est au monde? On a décidé de faire un scanner avec une ordonnance du médecin de famille de mon mari. Humain, lui. Et pour l'interpréter, on a pris rendez-vous avec un neurologue dans un hôpital de Paris.
Docteur, nous vous demandons de nous dire la stricte vérité. Ne cherchez pas à nous épargner. Je vous en supplie.
Il examine notre fils avec beaucoup de douceur. Et puis il prend son dictaphone.
Cher confrère, virgule, je vois aujourd'hui l'enfant que vous m'avez envoyé, point. Le scanner montre une atrophie cortico-sous-corticale modérée
et une hyperdensité des régions thalamiques. Point. Le tableau clinique est celui d'une tétraplégie mixte à prédominance extrapyramidale. Point. Et il dit à son dictaphone que quand Frédéric aura 3 ans, il faudra le placer dans un centre spécialisé. On est abasourdi. Jusque-là, on avait refusé l'idée que ce soit aussi grave. Mon mari, surtout, voulait y croire. Et moi non plus, je n'avais pas renoncé à espérer. En sortant, on se précipite désemparé avec cette lettre chez notre médecin de famille. Il la lit. Il grimace. Si celui qui a fait naître votre enfant avait pris ses responsabilités, il ne l'aurait pas réanimé. Il n'aurait pas appelé le SAMU, il n'aurait pas demandé son transfert à l'hôpital. Mais non, il a condamné votre petit à l'avenir le plus sombre qui soit. Le cerveau est détruit. On peut tenter une rééducation, mais il ne tient même pas sa tête. Ne vous faites aucune illusion. Il ne récupérera pas. Frédéric vient d'avoir 2 ans lorsque naît son petit frère Hugo. Et à partir de là, toutes les comparaisons avec Frédéric nous attristent. On découvre les joies simples des biberons qu'on donne sans peur de le voir s'étouffer. Hugo sourit, Hugo gazouille, Hugo tente de jouer avec son frère qui évidemment reste sans réaction. Et dans un coin de ma mémoire, il m'arrive de méditer la proposition de mon père. Mais je la repousse. Mon père est malade. Il va mourir. Et sur son lit de mort, il me dit: le petit ne récupérera jamais, Anne. Il ne vit pas, là. Il n'en finit pas de mourir. Je voulais... Tu t'en souviens? Il me demande pardon de s'en aller sans être capable d'emmener son petit-fils comme il me l'a proposé. Alors je me penche vers lui et je murmure à son oreille: t'inquiète pas, papa. Ton petit-fils ne vivra pas comme un légume. On ne l'abandonnera pas à des étrangers. Je te le promets. Fais-moi confiance. Je tiendrai ma promesse. La décision de mettre fin au jour de mon fils, je l'ai prise dans une souffrance atroce. Il n'y a pas de circonstance plus cruelle pour une mère que de choisir en conscience la mort pour l'enfant qu'elle a mis au monde. Petit, innocent. L'enfant qui s'en remet à elle, qui attend tout d'elle. Sauf ça. Mais de là à passer à l'acte. Un jeudi, en fin d'après-midi, je vais vers l'armoire à pharmacie. Je prends le tube de médicaments que Frédéric prend depuis sa naissance pour traiter son épilepsie. Je le vide tout entier dans une soucoupe. Je le réduis en poudre. Je revois encore ma main qui tremble. Mes larmes qui coulent se mélangent à la poudre. Je rajoute un peu de lait. J'entre dans la chambre. Je prends mon fils dans les bras. Et je le berce pendant au moins 2 heures. Je respire son odeur. Je lui dis que je l'aime. Et après, avec une infinie douceur, je lui fais boire le contenu de la soucoupe. Et puis je le remets dans son lit. Et je sors. Je vais vers le salon. Je me laisse glisser sur le sol. Quand mon mari rentre du travail, quand il me voit comme ça, écroulé, le regard éteint, il comprend. Il n'est pas surpris. Depuis la mort de mon père, on était d'accord.
Nous allons voir notre cher médecin de famille, très âgé. Je lui explique. Il se lève, il contourne son bureau. Il vient poser ses mains sur mes épaules.
Vous savez, Anne, dans ma carrière, j'ai aidé plus d'une personne à quitter dignement la vie. Et si vous étiez venu me trouver pour Frédéric, au lieu d'agir seul, je vous aurais aidé.
Il effleure ma joue. Il retourne s'asseoir.
Son coma va sans doute durer plusieurs jours. Surtout attendez qu'il soit mort avant d'appeler un médecin. Il serait capable de l'envoyer en réanimation.
Et il écrit un courrier dans lequel il explique qu'il suit cet enfant depuis sa naissance et que son décès, étant donné son état, était prévisible. Le lendemain matin, nous mettons Frédéric sur la banquette à l'arrière de la voiture et nous roulons 600 km jusqu'à chez ma mère, dans une solitude absolue. Et auprès de maman, pendant 4 jours interminables, nous le baignons, nous le massons, nous dormons près de lui, nous le tenons contre nous. Parfois il soupire, et là une partie de moi supplie qu'il rouvre les yeux. Frédéric nous quitte le jour de ses 3 ans. Je n'oublierai jamais sa petite main dans la mienne. 3 petits souffles chauds qui s'échappent de sa bouche entrouverte. Et son visage qui se détend et qui se fige avec un sourire de sérénité enfin atteinte. Il est beau. Il est beau à couper le souffle.
Moi si j'ai rompu le silence, c'est pour éviter l'asphyxie. Oui, je suis un cri de défense, un cri qu'on pousse à la folie. Je ne suis qu'un cri. Pardonnez si je vous dérange, je voudrais être un autre bruit. Être le cri de la mésange, n'être qu'un simple gazouillis. Tomber comme un flocon de neige, être le doux bruit de la pluie. Mais je suis un cri qu'on abrège, je suis la détresse infinie. Je ne suis qu'un cri.
Voilà, cette chanson de Jean Ferrat, Je ne suis qu'un cri, c'est vous-même qui l'avez choisi à ma place, hein. Vous l'évoquez dans l'introduction de votre livre, c'est votre manière de dire que cette histoire n'est pas anodine, que vous la racontez dans une infinie douleur.
Oui, exactement. Et c'est aussi une manière de faire comprendre à ceux qui entendront cette histoire, à ceux qui la liront, qui vont être heurtés, mais que j'aurais voulu ne jamais avoir à les heurter. C'est aussi cette façon-là de m'expliquer, de dire oui, vous allez être choqués, oui.
Je veux vous donner à l'issue de ce récit la possibilité, de compléter, de rectifier, de préciser peut-être un point que j'aurais mal compris, que j'aurais sous-évalué, surévalué, sur lequel je n'aurais pas assez insisté au fond, même si j'espère vous avoir été complètement fidèle.
Oui, vraiment, oui. Là, je n'ai rien à ajouter parce que c'est vraiment...
Ça traduit,
voilà, exactement, ainsi que mon état d'esprit aussi. Donc oui, c'est vraiment fidèle. Oui.
Pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter coûte que coûte ? Parce que il peut y avoir là un malentendu. Vous n'avez pas attendu la prescription de votre crime, car il s'agit d'un crime, pour raconter votre histoire. Vous le dites dans le livre, vous avez voulu la raconter dès le lendemain.
Oui. J'ai voulu la raconter tout de suite, mais
le médecin
m'a dissuadé. Et il m'a dit que j'avais un enfant à élever, et qu'il avait 1 an et qu'il ne fallait pas le priver de sa mère.
Ouais. Vous étiez prêt à aller en prison ?
Ah oui. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi, enfin que c'est moi qui ai agi. Parce que je sais qu'il est fort possible que si j'avais, comme on était d'accord mon mari et moi, que mon mari l'aurait certainement fait. Mais mon mari travaillait, il fallait qu'il s'occupe de Hugo. Moi, je ne m'occupais que de Frédéric. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir s'occuper du bébé, si, du cas échéant. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi, moi, de prendre cette responsabilité. Et en plus, parce que c'est moi qui l'avais mise au monde. C'était moi qui l'avais porté.
On va revenir là-dessus tout à l'heure. 10 ans après, vous allez voir un éditeur, vous lui dites « j'ai un texte, je veux l'éditer oui. ». Et une fois de plus, il vous dit « c'est trop tôt ».
Oui, oui, j'ai commencé à écrire cette histoire en 91. Et le temps de l'écrire, le temps de chercher un éditeur, oui, puis j'ai trouvé un éditeur qui m'a demandé de venir à Paris. Et nous avons déjeuné, nous avons discuté, parce qu'il était prêt à publier ce livre. J'avais deux enfants, donc Hugo et puis sa petite sœur Victoria, qui avait 3 ans. Et il m'a dit, non, moi je ne peux pas, je ne suis pas prêt parce que, en discutant avec vous, je vois que vous avez des enfants en bas âge.
Et moi je. Plus vous protéger.
Voilà. Et il m'a dit, vous êtes naïve, je vous mets sur une, vous êtes sur une trappe et vous voulez que moi j'ouvre pour vous faire tomber dedans. Ouais. J'ouvre la trappe. Il a dit, non, je ne peux pas.
Il avait raison.
Alors, je pense qu'il avait raison dans la mesure où ça m'a permis d'élever mes enfants, d'être là. Mais je pense aussi qu'il l'a fait dans son âme et conscience. Parce qu'il ne voulait pas avoir la responsabilité de priver 2 enfants de leur mère.
Et ça vous permet aujourd'hui de faire toute cette démarche avec vos enfants. Oui. Votre fils voilà. Hugo est là derrière la vitre.
Voilà. Et mes enfants, dès qu'ils ont été assez grands, bon, pas quand ils avaient 6-7 ans, mais...
Vers quel âge ?
Vers le 12 ans, 13 ans, je leur ai expliqué. Et ça n'a jamais été un tabou à la maison, je leur ai expliqué. Et ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est que unanimement, ils m'ont dit « Mais maman, tu as fait le bon choix. Si ça avait été nous, on aurait voulu que tu fasses la même chose. » Et ça a été vraiment d'un grand réconfort pour moi.
Vous savez sans doute que le procureur de la République de Toulouse, où vous avez vécu ces dernières années, réfléchit à l'hypothèse d'ouvrir une procédure contre vous pour assassinat. Il s'interroge pour savoir si les faits sont prescrits ou pas. C'est extrêmement complexe en France. Normalement, les crimes sont prescrits au bout de 30 ans. Là, il s'agit de 30 ans au-delà de la majorité hypothétique de Frédéric. Bref, il réfléchit. C'est un risque que vous assumez aujourd'hui.
Ah oui, oui, je l'assume. De toute façon, je l'aurai toujours à assumer. Parce qu'à partir du moment où j'ai fait ce choix, je n'ai pas fait le choix de me taire. Donc oui, je l'assume. Et je n'ai pas regardé s'il y avait une prescription ou pas de prescription. Puisque en 1994, si l'éditeur m'avait dit oui, il serait sorti en 1994.
Ouais. Et là, vous étiez bonne pour la cour d'assises.
Oui. Ouais. Oui.
Vous assumiez ça.
Oui.
Vous le souhaitiez peut-être.
Mais,
pour pouvoir dire
pas.
Des choses, être voilà. jugé sur ce que vous avez fait. Et hypothèse, vous auriez été acquitté, c'est une hypothèse. Mais un jury populaire.
Parce que de toute façon, ça n'est pas parce que je me moque de la loi. Parce que mes parents m'ont élevé dans le grand respect des lois. Mais là, dans mon esprit, il n'y avait aucune commune mesure entre la loi et délivrer mon enfant de ce carcan, de cette vie qui n'en était pas une, le sortir, le libérer de cette antichambre de la mort. Parce que pour moi, il ne pouvait qu'attendre la mort là où il était. Donc pour moi, c'est une délivrance pour lui.
Alors je voudrais qu'on revienne presque aux premières contractions, parce que dès les premières contractions, on a l'impression que vous sentez qu'il va y avoir un problème, et il n'y a rien de rationnel là-dedans. Non. C'est donc la manifestation du fameux instinct maternel.
Alors je ne sais pas si c'est l'instinct maternel, mais c'est vrai que pendant les contractions, je vois qu'il ne bouge pas, je sens qu'il ne bouge pas, que j'ai des contractions, mais que...
C'est votre première, vous ne savez pas comment ça marche d'habitude.
Non, je ne sais pas. Je me dis que quand même, pour qu'il naisse, il faut bien qu'il bouge à un moment donné. Et moi, j'avais toujours l'impression d'avoir en haut, sur mon ventre, les contractions. Il y avait des contractions, mais il ne bougeait pas du tout. Donc j'avais l'impression qu'au bout d'un moment, qu'il s'épuisait sans bouger d'un centimètre. Donc... c'était vraiment très, très angoissant.
Et on retrouve cette intuition quand vous rentrez à la maison, quand vous dites j'ai l'intuition d'un chaos. Là non plus, vous n'avez aucun élément pratique.
Non, je n'ai pas d'élément. Mais à partir d'un certain moment, j'ai senti qu'il ne bougeait plus avant de naître. Et qu'il n'y avait plus de contractions, il bougeait plus. Et alors je me suis dit, c'est pas possible. Il est mort, ou il est, ouais, donc il est en train de mourir, il est mort. Donc oui, là aussi, j'ai senti. C'est pour ça aussi que je me disais, ça n'est pas possible, qu'il n'ait pas de séquelles importantes, parce que pour moi, j'avais senti ce moment-là.
Vous avez senti le moment où, en fait, il...
Oui, j'avais senti le moment
où... Il renonce.
Oui, pour moi, c'était à partir du moment où il n'y avait plus aucun mouvement, c'est qu'il avait renoncé, qu'il ne pouvait plus, qu'il était allé au bout de ses limites.
Votre raisonnement, c'est que la clinique, ayant commis une faute dans la surveillance de votre accouchement, passe le bébé, c'est le cas de le dire, à un hôpital, et vous fait signer un papier au passage, signer à votre mari un passage, pour se laver les mains du problème.
Oui,
c'est ça.
C'est mon sentiment. C'est mon sentiment, parce que, d'ailleurs, conforté par l'avis de notre vieux médecin, qui nous a dit, mais moi, ça serait arrivé si ce médecin avait pris ses responsabilités. Il vous aurait dit qu'il était mort. Mais là, une mort à la clinique, et puis ça aurait voulu dire que peut-être nous, on aurait posé des questions, pourquoi elle est morte.
C'était la réputation de la clinique.
C'était certainement la réputation de la clinique.
Vous dites l'aura sociale dans votre livre.
Oui, l'aura sociale, et puis parce que vous avez, enfin, il y a des médecins qui vont aussi à droite à gauche, qui sont surbookés, ils font tout sauf de la médecine, ils font tout sauf être avec leurs patients, et j'ai eu l'impression que c'était ça, parce que le temps que nous apprenions que notre fils était dans cet état, il s'est passé du temps. Donc lui, il était débarrassé, en fait, quelque part.
C'était le sujet de l'hôpital, c'était plus celui de la clinique.
Voilà, c'était l'hôpital.
Et après l'hôpital, qui sans doute a parfaitement conscience de s'être acharné à le maintenir en vie, vous ment sur les séquelles. Il vous ment.
Ah oui, oui.
Le professeur vous ment.
Voilà. On nous dit oui, mais vous êtes toujours dans les livres, vous ne savez. Mais je dis oui, mais moi j'ai senti ce moment. J'ai senti quand il ne respirait plus. C'est pas possible qu'il n'y ait rien. Mais il faut attendre. Enfin, c'était vraiment. On avait l'impression d'être baladés, que nous étions, pas des cas d'études, mais presque, quoi.
Votre mari. Dans toute cette histoire, vous le faites exister dans votre livre.
Oui.
Et puis de temps en temps, il disparaît totalement.
Oui.
Et évidemment, au moment de la mort de Frédéric, il n'est pas là. On est un peu surpris de ça. On se dit que ça aurait été un geste à faire à deux.
Oui, mais justement, là, je reviens sur ce point-là. C'est que j'avais conscience de transgresser une loi. J'avais conscience que on ne pouvait pas. Parce que moi, je voulais parler, je voulais dire, voilà, j'ai choisi ça pour mon fils, je lui ai donné la mort. Et on ne pouvait pas le faire tous les deux. Nous aurait pris Hugo, on l'aurait placé, qu'est-ce qu'on aurait fait? Donc, pour moi, il était important que ce soit moi et moi seule, qu'il reste au moins un parent. Un parent debout, un parent en état de protéger notre fils.
Mais on sent tout de même que c'est plus votre affaire de mère.
Oui, aussi.
Que son affaire de père.
Oui. Oui, parce que pour moi, c'était moi qui l'avais mis au monde, donc c'était ma responsabilité. Et je devais ça à Frédéric, même s'il ne comprenait pas, même c'était moi. Si quelqu'un pouvait agir ainsi, ça ne pouvait être que moi. Parce que je pense qu'il n'y avait que cet amour-là qui pouvait lui apporter cette délivrance, que mon amour-là.
Y a vraiment un passage qui est très fort, c'est que, est-ce que c'est votre père qui vous amène sur la voie de cette solution, lui donner la mort? Où est-ce que vous y avez pensé avant?
Alors, déjà, faut que je parle, dans ce cas, il faut que je parle aussi de mon éducation. Parce que notre père nous a élevés, mon frère et moi, dans l'idée que la vie était importante, qu'elle était précieuse. Et que...
Vous dites que c'est un humaniste, mon père.
Oui, oui. Parce qu'il a vécu la guerre d'Espagne, son père journaliste a été fusillé sous ses yeux quand il avait 13 ans, parce qu'il faisait des journaux clandestins contre Franco. Donc une nuit, les militaires l'ont sorti du lit, l'ont mis contre la maison et l'ont fusillé. Et mon père a fui Franco, justement. Il fait partie des réfugiés espagnols. Et mon père savait ce qu'était la vie, il savait ce qu'était lutter pour vivre. Et il nous a toujours dit... Il y a une dignité dans la vie et on ne peut pas vivre à tout prix. il faut vraiment faire très attention. Et il nous a souvent dit, à mon frère et à moi, si un jour il m'arrive quelque chose, que j'ai un accident, que quoi que ce soit, surtout, si vous m'aimez, ne me laissez pas vivre. Faites-moi partir. Et ça, il nous l'avait déjà demandé à plusieurs reprises.
Est-ce que ça veut dire que donc vous y pensez avant lui, à mettre un terme au jour de Frédéric?
Alors,
beaucoup de parents, je vous rassure, d'enfants handicapés ou lourdement handicapés,
oui.
ont cette idée qui leur traverse la tête. Rares sont ceux qui vous diront ça. J'y ai jamais pensé.
J'y ai pensé, mais je voulais me raccrocher à ce que mon mari me disait, parce que lui était plus optimiste que moi. Et alors, je me disais, mais non, je m'en moque qu'il marche à 3 ans, ou qu'il fasse des progrès qu'à 3 ans, qu'à 4 ans, mais c'est pas grave. Et ça m'a effleuré, mais ça m'a effleuré...
Quand? Juste après la naissance?
Non, ça m'a effleuré au fur et à mesure que nous faisions
les démarches.
Les démarches. Mmh. Et là, ça, c'était pas la même chose, parce qu'en fait, pour moi, avant que nous ayons Hugo, c'était plutôt qu'on parte ensemble tous. Enfin,
l'idée d'un suicide collectif vous a traversé l'esprit.
Je me souviens que parfois, quand nous partions chez mes parents pour nous reposer un petit peu, je me souviens d'avoir dit à mon mari, lâche le volant, qu'on parte, quoi. Donc, ce qui m'a effleurée à ce moment-là, c'était plutôt qu'on parte ensemble. Et chaque fois, mon mari me disait « Non, on n'a pas encore le résultat là. Laissons-nous un peu de chance. Laissons-nous encore une chance. »
Ça a compté, le soutien symbolique de votre père, au-delà de sa mort?
Oui, ça a compté parce que j'ai compris que lui ne lâchait pas prise. Il ne lâchait jamais prise tant qu'il y avait un espoir. Mon père adorait Frédéric. Et je me suis dit aussi, là j'ai commencé aussi à comprendre que l'espoir, il n'y en aurait certainement pas. Parce que, pour qu'il me dise cela, c'est qu'il avait vraiment compris ou senti ou envisagé vraiment qu'on n'aurait plus d'espoir. Et pour moi, veuille faire ce sacrifice, c'était vraiment émouvant.
Je vous remercie beaucoup, Anne Ratier, de m'avoir confié votre histoire, de m'avoir autorisé à la raconter au jeu, de vous prêter ma voix. Votre livre, je le rappelle, vient de sortir aux éditions City. Il s'appelle « J'ai offert la mort à mon fils ». C'est un témoignage bouleversant que je conseille vraiment à tout le monde. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.